Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Du biologique à l'écologique, du zéro déchet à l'upcycling, de l'associatif à l'entrepreneuriat, vous découvrirez un nouvel invité qui nous partagera son parcours, ses actualités et ses projets. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes de Basilic sur votre smartphone, dans votre application de podcast ou bien évidemment sur notre site internet basilicpodcast.com. Bonne écoute à tous! Cette semaine, je reçois Claire Chouraki. Claire a créé Dream Act avec son amie Diane. Elles avaient la volonté d'aider les citoyens à consommer de manière responsable, à s'orienter vers des achats ayant du sens. Dans cet épisode, Claire vous raconte son parcours, sa vision de l'éthique et pourquoi elle considère que chacun vote pour le monde de demain au travers des achats qu'il fait au quotidien. Aujourd'hui, Dream Act rassemble plus de 500 marques responsables. Le site vous permet non seulement de consommer de manière durable et raisonnée, mais aussi de vous informer grâce à la rubrique Webzine. Je vous laisse découvrir l'épisode. Belle écoute à tous! Bonjour Claire!
Bonjour Jeanne!
Donc tu es l'une des fondatrices de Dream Act.
C'est ça.
Qui est un site internet... Donc à la fois e-commerce et en même temps une vraie mine d'or au niveau des informations. Je pense que ça répond à toutes les questions que peut se poser le consommateur qui cherche à mieux consommer de manière durable et éthique. Donc on va parler de tout ça. Est-ce que d'abord, dans un premier temps, tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Oui, bah alors je m'appelle Claire, j'ai 28 ans et j'ai cofondé Dream Act il y a 3 ans avec Diane. Dream Act, c'est parti d'abord... d'une envie de nous deux, de se dire ben, comment en fait on peut faire des choix dans nos vies du quotidien qui soient en accord avec nos valeurs, parce qu'on a envie d'un monde plus éthique, plus durable, mais finalement nos placards sont bourrés de vêtements de fast fashion, notre frigo est plein de suremballage et nos placards de salle de bain sont pleins de cosmétiques dont on ne comprend pas du tout les noms. Et donc face à ce constat, on a eu envie de trouver des solutions pour faire des achats plus responsables, d'abord pour nous. C'est comme ça qu'on a découvert plein d'initiatives formidables qu'on a eu envie de partager avec les gens qu'on connaissait. Donc on a d'abord créé un site d'information pour démocratiser la consommation responsable. Et finalement, ça a toujours été ça notre fil rouge. On n'a pas toujours su ce qu'allait devenir Dream Act et que ça allait devenir ce que c'est maintenant. On a toujours su que notre envie, c'était de changer les choses et de rendre la consommation responsable plus accessible et finalement d'en faire la norme. Donc on a d'abord fait site d'information et puis rapidement, on s'est rendu compte que bah, ça plaisait aux gens. Mais on avait tout le temps des demandes de « et maintenant, moi j'habite à Orléans, comment je fais pour consommer responsable ?» Et moi je suis à Tours et on s'est dit « en fait c'est vrai, il y a un problème d'accessibilité ». Aux produits éco-responsables. Comment faire pour résoudre ce problème d'accessibilité ? On va créer un site marchand sur lequel on pourra acheter les produits des petits créateurs que nous, on découvre. Et c'est comme ça qu'est née la marketplace Dream Act. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, on a aussi des entreprises qui sont venues nous voir en nous disant « nous aussi, on va faire des achats responsables ». Est-ce que vous faites ça ? Et donc, on a développé une offre pour les entreprises qui veulent faire notamment des cadeaux d'affaires responsables et pour leur proposer les produits de marques engagées qui vont faire un maximum du made in France, de l'insertion, des matières durables ou recyclées ou upcyclées. Et voilà.
Et comment vous avez sélectionné les marques en fait, qui sont sur Dream Act aujourd'hui ? Vu qu'à la base, c'était quand même plus un webzine et un magazine. J'imagine que tu connaissais déjà quelques marques, mais comment vous avez fait votre choix ?
On s'est d'abord posé la question de qu'est-ce que ça veut dire pour nous consommer éthique et consommer responsable. Et finalement, l'éthique, c'est de réfléchir à quelles sont nos valeurs. Donc, c'est un peu un jugement. Je vais mettre en place des principes d'action en accord avec nos valeurs. Pour nous, la consommation responsable, c'est soutenir des créateurs qui sont engagés pour préserver l'environnement et pour améliorer la société et qui, par leurs produits, vont créer une solution à des problématiques sociales et environnementales. Donc, pour sélectionner ces créateurs-là, on a toujours un premier rendez-vous avec eux on essaye de comprendre quel est leur rêve de changement du monde et de la société et comment dans leurs actions et par leurs produits, ils apportent des solutions à ces problématiques qu'ils ont rencontrées. Et pour ça, on va leur poser des questions sur tout leur processus de production, sur les matières, sur les ingrédients, sur qui est la personne et qui fabrique les produits ou dans quelles conditions. Une fois que nous, l'équipe DreamAct, on a été convaincus par ce qu'ils nous ont raconté, on leur demande de mettre ça un peu au propre dans un questionnaire d'auto-évaluation d'impact que les créateurs remplissent en ligne. Et ces questionnaires-là, on va les envoyer à un comité éthique indépendant qu'on a constitué dès le début de DreamAct, même lorsqu'on avait uniquement le webzine, et qui est constitué d'experts à la fois de l'économie sociale et solidaire, de la consommation responsable, mais aussi on a des spécialistes de l'insertion, de la cosmétique, de la mode, pour pouvoir relire les questionnaires et valider ou non l'engagement des marques selon ce qu'ils nous ont dit.
Et sur votre plateforme, vous proposez des marques aussi bien de mode que de beauté. Vous balayez un petit peu tous les secteurs ?
Oui, on a voulu balayer un peu tous les secteurs. Donc, on a de la mode, de la beauté, des produits pour les enfants, pour la maison. On a même une partie librairie parce qu'on pense que c'est important de s'informer sur la consommation responsable. On a voulu être une plateforme qui répond à tous les besoins de consommation parce qu'on est convaincu que quand on veut changer son mode de consommation, on ne veut pas juste changer sa garde-robe ou juste changer les produits qu'on se met sur la peau. On entre dans une autre démarche de consommation. On va privilégier la qualité, la démarche et regarder ça en fait sur tous ces domaines de consommation.
Et comment, enfin, il existait déjà avant que vous lanciez DreamAct, des sites, internet, des plateformes, est-ce que tu n'as pas eu peur de te lancer dans ce domaine-là ? Est-ce que le fait d'avoir lancé d'abord un webzine, ça t'a conforté dans l'idée que DreamAct pouvait évoluer vers une plateforme e-commerce ?
Il existait déjà des choses, mais on se rendait compte, nous, que ça ne correspondait pas suffisamment à notre besoin. Et on se rendait compte que ça ne correspondait pas suffisamment aux besoins des autres personnes qui nous suivaient, puisqu'ils nous demandaient des solutions. Je pense qu'on n'aurait pas pu se lancer tout de suite dans un e-shop. On avait besoin d'avoir cette espèce de première communauté qui nous suivait, qui nous donnait leur avis et leurs besoins. Au tout début de DreamAct, quand on a lancé le webzine, on ne pensait pas forcément que ça allait devenir le site que c'était aujourd'hui. À un moment, on pensait même qu'on allait en faire une application pour avoir une espèce de cartographie géante de tous les lieux éco-responsables en France avec un système de points de fidélisation. Et puis, on s'est rendu compte que ce n'était pas le besoin principal. Et donc, on a réorienté nos choix en fonction de ça. Mais non, on n'a pas tellement eu peur de se lancer là-dessus alors qu'il y avait de la concurrence. Au contraire, je pense que c'est des offres qui sont complémentaires. Et puis quand on se lance sur un marché sur lequel il n'y a aucune concurrence, c'est peut-être qu'on s'est trompé de marché ou qu'il y a un problème.
C'est vrai aussi. Voilà. Et avec Diane, ton associée, vous vous êtes rencontrés comment ?
On s'est rencontrés en école de commerce. On avait fait un double parcours en philosophie à la fac de l'Université de Reims. Et c'est comme ça qu'on est devenus d'abord copines, ensuite colocs. Et puis une fois colocs, on se parlait de nos questions de sens dans le travail et puis dans notre quotidien. On avait fait chacune des stages dans des associations et dans des entreprises sociales. Et c'est sur ces valeurs-là qu'on s'est retrouvés et qu'un jour on s'est dit, viens, on monte un truc ensemble qui, de fil en aiguille, est devenu DreamAct.
Toi, ta prise de conscience, elle date de quand ?
C'est une bonne question. Je pense que j'ai toujours été consciente de l'importance de s'engager en tant que citoyen pour les causes qui nous sont chères. Mais j'ai commencé à me poser la question de moi, concrètement, qu'est-ce que je dois faire assez tard. Je pense que je me suis commencé à me poser la question quand je me suis demandé quel métier j'allais faire. Et donc, une fois que j'avais fini mon lycée, ma prépa, que j'arrivais en école de commerce, et que là, je me suis dit, attends, mais là, tu es en train de choisir un métier. Pourquoi tu vas faire ce métier et qu'est-ce qui te tient à cœur? Est-ce que tu vas réussir à faire un métier en accord avec ce qui te tient à cœur? Et c'est là que, bah, du coup, j'ai fait mes premiers stages dans des initiatives engagées et que j'ai voulu donner beaucoup plus de sens à mes choix du quotidien. Avant, c'était un engagement beaucoup plus passif, en fait. C'était quelque chose, je savais que c'était important, mais j'en faisais rien, quoi. Par contre, je me souviens que quand j'étais, je crois, en cinquième, il y avait eu tout un scandale sur le fait que Nike faisait travailler des enfants. Et l'argument que Nike avait renvoyé à ceux qui le critiquaient, c'était « bah oui, mais si on les fait pas travailler, ils ont pas d'argent et du coup, ils peuvent pas vivre ». Et on en avait parlé en cours d'éducation civique. Et moi, j'avais trouvé ça incroyable. Et je ne comprenais pas que les autres, du coup, puissent avoir des Nike alors qu'on entendait des discours pareils, que ça ne change pas les envies de consommation. Mais bon.
Comme quoi, c'était, oui, déjà, ouais, c'était déjà ancré en toi. Et sur DreamAct, vous mettez en avant des notions fortes, évidemment, donc développement durable, commerce équitable, éthique. Qu'est-ce qui fait qu'une marque peut être ou non sélectionnée sur DreamAct? Tu as parlé du comité indépendant, mais au-delà de ça, comment toi, quand tu repères une marque, comment tu dis « ah oui, celle-ci, éventuellement, je pourrais la contacter » ou « celle-ci, non, pas du tout »
On se pose plusieurs questions. On se pose la question des matériaux qui sont utilisés. Est-ce qu'ils sont écologiques ou pas du tout? On se pose la question de qui fabrique et dans quelles conditions. Ensuite, il y a la question du transport, de la logistique, du conditionnement. Et puis la question de la durabilité du produit. Parce qu'un produit qui est conçu pour être obsolète au bout de 3 à 6 mois, parce qu'il est hyper à la mode et que dans 6 mois, la mode aura changé, bah, il ne peut pas être durable, en fait. Et il ne peut pas vraiment être responsable non plus parce qu'il ne s'inscrit pas dans cette démarche. Donc voilà, ça c'est les critères que nous on a en tête pour sélectionner les marques qu'on va contacter ou pour répondre positivement ou non aux marques qui nous contactent. Et ensuite, ce qui est le plus important, c'est la rencontre avec le créateur. C'est ça qui va nous définir si oui ou non on a envie de travailler avec une marque. Et typiquement, alors aujourd'hui, toutes les nouvelles marques qui se lancent sur Ulule, quand elles nous contactent, elles nous expliquent par A plus B tout leur engagement et qu'elles sont des entreprises sociales. Alors que quand on contacte des plus vieilles sociétés, souvent ils nous disent « ah non mais moi je suis pas du tout une entreprise sociale » et ils leur disent « ah bon bah pourquoi vous êtes pas une entreprise sociale ? Parce que pourtant vous fabriquez, enfin ou pas forcément une entreprise sociale, mais pourquoi vous êtes pas une entreprise engagée ? Vous fabriquez tout en France alors que la plupart de vos concurrents fabriquent bien plus loin ?» Et vous nous répondre, bah oui, c'est vrai, je fabrique en France, mais j'ai la colle de ma semelle qui vient de Chine, et puis j'ai pas que des matières qui sont véganes. Et cela, j'ai envie de leur répondre, bah en fait, c'est juste que c'est tellement ancré dans vos valeurs que vous vous rendez même pas compte que vous faites quelque chose qui est responsable dans la démarche.
Bah, ce qu'il y a aussi, c'est que celles qui sont lancées il y a longtemps. Le marché en Chine n'était pas forcément aussi développé, c'était pas aussi facile de délocaliser. Et donc, c'était logique de fabriquer en France ou en Europe.
Oui, c'est vrai. Mais il y a eu une vague de toutes ces entreprises françaises et européennes qui ont délocalisé en Chine à un moment, et puis certaines qui ont décidé de ne pas le faire. Et en fait, elles l'ont fait par conviction, souvent, mais sans se dire c'est un engagement. Elles se sont juste dit non, moi, je veux rester ici, je veux préserver l'emploi local, et en fait c'est tout aussi fort et important. C'est juste qu'elles n'ont pas les mots qu'on utilise aujourd'hui pour se décrire de la même façon que...
Et puis je pense que quand t'es dans une entreprise, tu vois toujours ce qui a amélioré. On en parlait avant d'enregistrer, mais tu vois toujours ce qui a amélioré. Donc une entreprise qui peut-être est restée en France depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années verra quand même que le bouchon de cet emballage-là n'est pas en plastique recyclé, et voilà.
Et elle aura raison de le voir, c'est des choses à améliorer. Mais en fait, elle ne se rend pas compte qu'elle fait mieux que plein d'autres boîtes qui en parlent beaucoup plus.
Et est-ce que consommer responsable, ça veut dire consommer plus cher ?
Non, je pense que d'abord, ça veut dire consommer différemment. Ça veut dire déjà consommer moins, arrêter d'acheter des choses dont on va se lasser rapidement ou qu'on va pouvoir porter à une ou deux occasions uniquement. Et puis aussi se poser la question de d'où ça vient et comment c'est fait avant d'acheter et de le mettre au cœur de ses préoccupations. Et puis en termes de prix des produits, en fait, je pense qu'on a un vrai souci sur tout ce qui est éthique et responsable. C'est que dans la tête des gens, ça coûte plus cher. On a fait un petit quiz sur Dream Act. Il y avait deux vêtements et le but du jeu, c'était de savoir éthique ou pas éthique. Donc on devait cliquer sur un des deux vêtements et deviner lequel était bien fait, lequel non. En fait, les deux vêtements avaient exactement le même prix, à 5 euros près, et pas toujours, c'était pas toujours le responsable qui était le plus cher. La seule différence, c'était qu'ils n'étaient pas fabriqués de la même façon. Il y en avait un pour lequel une grosse partie de la marge était reversée au salarié, et un autre pour lequel ça ne l'était pas. Mais pourtant, on a toujours l'impression que le responsable, c'est plus cher. Et je pense que c'est un peu comme l'histoire des rasoirs roses pour les femmes. En fait, c'est une question de prix qu'on est prêt à mettre dans les choses. Et on est prêt à mettre un prix élevé quand on connaît la marque, quand on a une vraie adhérence à l'univers de la marque. Mais on n'est pas encore assez prêt à mettre le même prix pour un produit de bonne qualité, qui est fait dans des bonnes conditions, mais qui est fait par des marques qui sont moins connues. Et c'est exactement la même chose que les rasoirs, où les femmes sont prêtes à payer plus cher que les hommes un produit qui est exactement le même. Donc oui, ça, on ne vendra jamais un t-shirt à 5 euros en consommation responsable. Pour autant, ce n'est pas plus cher d'acheter un t-shirt chez Dream Act que chez Comptoir des Cotonniers, par exemple. Quand on cherche de la qualité, on est prêt à mettre un prix qui est exactement le même en responsable ou pas responsable. Dans tous les cas, on a de la qualité, sauf que dans un cas, on a en plus la certitude d'avoir un produit bien fait sur toute la chaîne de valeur.
Et en tant que consommateur, vers quel label ou à quoi on doit être attentif si on veut consommer responsable ? Bon, évidemment, on peut consulter Dream Act pour avoir toutes les réponses. Mais toi, quels sont tes conseils pour quelqu'un qui s'y connaît pas tellement ?
Alors, on peut s'informer sur les labels, mais je pense que la première chose à faire, c'est tout simplement de regarder les étiquettes et de regarder où c'est fait et en quelle matière. Et ensuite, de se poser la question de combien de fois je vais le porter, est-ce que je l'aime vraiment ou pas, est-ce que dans 3 jours, j'en aurai toujours envie. Mais c'est vraiment quelque chose de tout simple, juste regarder l'étiquette et se dire, est-ce que j'ai envie de m'acheter un vêtement made in China en dérivé de plastique ? Et en fait, pas forcément.
Et au niveau des matières à privilégier, évidemment, le coton, c'est une des matières les plus répandues. Néanmoins, ça consomme beaucoup d'eau. Est-ce que toi, tu as des alternatives, des matières que tu privilégies, que tu préfères ?
Oui, alors il y a le coton bio qui utilise beaucoup moins d'eau que le coton traditionnel et aussi beaucoup moins de pesticides. Il y a le lin qui est une super matière qui est fabriquée en France. Qui n'est pas tissé en France, c'est souvent tissé en Europe et puis ça revient en France. On n'a pas encore des circuits parfaits parce que beaucoup de circuits de production et surtout dans la mode se sont éloignés de la France parce que ça coûtait trop cher de produire. Et après, il y a d'autres matières un peu plus innovantes qui se créent. Il y a le lyocell qui fait beaucoup parler de lui mais sur lequel on n'a pas non plus une transparence complète. Il y a le pignatex qui est une matière intéressante aussi, qui est un dérivé d'écorce d'ananas et qui ressemble au cuir et qui a à peu près les mêmes propriétés, mais qui est fait aux Philippines. Et puis on a le liège, pareil pour être une alternative au cuir, qui est une matière formidable, qui est fabriquée au Portugal, donc pas très loin, et qui en plus a des propriétés d'absorption de CO2. Donc c'est une très belle matière que je vous recommande.
Et sur Dream Act, tu disais que ce qui est important pour vous, c'est de rencontrer les créateurs, les fondateurs des marques. Est-ce que ça signifie que tu as uniquement des marques françaises ?
On a presque que des marques françaises. On a aussi quelques marques qui ne sont pas françaises. Et dans ce cas, bah, on ne fait peut-être pas un entretien physique. On va faire peut-être plus un Skype. Mais finalement, c'est les réponses qui nous intéressent, puis les réponses en direct. Donc, un Skype, ça nous va aussi. Et ça nous garantit qu'on a une personne sur place qui bah, connaît bien les usines et qui va faire du commerce équitable. Donc, ça nous va aussi.
OK. Donc, ce n'est pas restreint à la France.
Non, ce n'est pas restreint à la France. C'est surtout français. Et c'est aussi parce qu'on est beaucoup plus connu en France qu'à l'étranger, puisqu'aujourd'hui, on livre quasiment qu'en France. Mais on peut aussi avoir des partenaires pas français.
Et sur DreamAct, aujourd'hui, vous réunissez combien de marques ?
On a un peu plus de 500 marques qui vendent sur DreamAct aujourd'hui et à peu près 12 000 produits.
Et votre système de fonctionnement, tu m'en parlais avant qu'on enregistre l'épisode, permet en fait aussi à des petites marques d'être présentes sur DreamAct. Est-ce qu'en mode responsable, c'est quelque chose d'important ?
Oui, en mode responsable, c'est important. Alors nous, notre système de fonctionnement s'appelle le dropshipping. Ça veut dire que chaque marque gère ses stocks et envoie directement les produits aux clients à la commande. Ça permet notamment à certaines marques de pouvoir fabriquer à la commande les produits et d'éviter de faire des collections qui ne vont pas se vendre et dont on ne va pas savoir quoi faire après. Donc oui, c'est un système qui est important pour nous, qui aide les petites marques à gérer leurs stocks. Quand, par exemple, si à un moment elles sont en rupture de stock parce qu'elles ont fait un marché de créateurs qui a super bien marché pour elles, bah, il suffit de mettre les stocks à jour chez nous et puis elles ne vont pas avoir des commandes en trop. Et en même temps, bah, on ne va pas les empêcher de faire leur marché de créateurs parce qu'on a gardé leur stock chez nous. Donc, pour travailler avec nos marques, c'est un bon système.
Quelle est ta marque coup de cœur du moment en mode ? Allez, commençons par la mode.
J'en ai plein.
J'imagine.
J'aime...
T'en découvres plein, en
ouais.
plus.
J'aime bien Maison Alpha et Atelier 1 pour les femmes. Et pour les hommes, je dirais Montlimar et Green Lion.
Et pour les enfants
On a Rikiki Kids, qui est cool. Et c'est des vêtements pour enfants qui grandissent avec les enfants.
Ah, donc, pas mal.
Ouais. C'est joli et puis c'est original.
Et au niveau de la salle de bain, est-ce que toi, ça a été difficile de faire ta transition et d'aller vers un système plus responsable, de consommer moins ? Où est-ce que tu as trouvé en fait le plus difficile d'appliquer les principes que tu prônes sur DreamAct ?
Bah, le plus difficile pour moi, c'est le repas du midi. Parce que j'aime pas du tout me faire... Enfin, j'aime pas... Juste, je le fais pas souvent... Mon petit Tupperware.
Ta petite lunchbox.
Ouais, c'est ça, je fais passer. Et du coup, bah, bien souvent, j'ai envie d'aller acheter des trucs dehors. Alors, on a mis en place des systèmes avec les commerçants du quartier où on vient avec nos Tupperware pour leur donner et éviter les contenants jetables. Mais ouais, ça, c'est le truc. Vraiment, j'ai du mal à arrêter les repas du midi pas fait soi-même. Et alors la salle de bain, moi j'ai jamais utilisé beaucoup de produits cosmétiques, donc ça c'était, enfin voilà, c'était pas trop difficile de juste changer de crème de jour et de crème solaire en gros. C'était plus sur les produits d'hygiène, par exemple le shampoing solide, j'ai mis vraiment pas mal de temps à en trouver un qui convenait à mes cheveux parce que j'ai des cheveux un peu un peu diabolique parfois.
Long et bouclé.
Oui. donc ouais, ça j'ai mis du temps à trouver un bon shampoing, mais maintenant j'ai trouvé. Déo, j'ai trouvé rapidement un truc qui me convient bien. Le dentifrice, pareil, j'ai mis du temps à m'habituer au dentifrice solide, mais ça se fait bien.
T'avais l'habitude des dentifrices plus conventionnels ?
Oui.
Est-ce que t'as toujours quand même consommé plutôt naturel, bio ou pas tellement ?
Ah non, j'ai eu ma période shopping addict où je faisais des rasias chez H&M et je voulais jamais mettre deux fois la même tenue à une soirée, quoi.
Comme quoi c'est possible.
Comme quoi c'est possible.
De changer. Donc chez DreamAct, aujourd'hui, vous avez commencé toutes les deux avec Diane.
Oui.
Aujourd'hui, vous êtes une dizaine, plus quelques petits stagiaires. Qu'est-ce que ça fait ? Comment tu l'as vécu ? Est-ce que c'était ton rêve ? Tu as fait une école de commerce, donc est-ce que c'était ton rêve de diriger, de créer une entreprise ?
Bah, c'était pas quelque chose qui me... ni qui m'attirait particulièrement, ni qui me faisait trop peur. Ma grande crainte en sortant de l'école de commerce, c'est de ne pas m'épanouir dans mon travail. Parce que moi, j'ai des parents où ma mère adore son boulot, elle est médecin, et elle adore ce qu'elle fait. Et mon père, à l'inverse, il s'est cherché longtemps, et puis je le voyais toujours triste à la rentrée de retourner travailler, et je n'avais pas envie de moi aussi être triste de retourner au boulot. Donc c'était surtout ça ma grande crainte, et je me disais, je m'en fiche de quel travail je vais faire, je veux juste être heureuse de me lever le matin et d'avoir un travail qui a du sens pour moi. Et donc quand la solution ça a été l'entrepreneuriat, je n'ai pas trop réfléchi, je me suis dit bah on va aller voir, et au pire si ça marche pas, j'aurai appris des trucs quoi.
Et donc avec Diane, quand vous vous êtes lancée, donc tu le disais, vous avez commencé avec ce webzine, ensuite vous avez contacté des marques. Est-ce que, comme vous aviez un parcours plus école de commerce, vous avez pu faire une levée de fonds? Vous aviez déjà les cartes en main, les ficelles pour agir de cette façon ou pas?
Je pense qu'avoir avoir fait une école de commerce, ça apprend pas à entreprendre, mais ça apprend les codes, effectivement, et pour aller voir... les gens qu'on veut sans avoir peur de notre parcours et sans avoir peur d'aller les voir. Et ça donne quand même une carte de visite qui fait que quand on est deux petites nanas de 24-25 ans qui n'ont aucune beaucoup d'expérience et qu'on arrive pour demander 350 000 euros, finalement, heureusement qu'on avait à la fois cette carte de visite qui dit on n'est normalement pas trop bête, on a fait une prépa et une école de commerce, donc on devrait... savoir compter quoi. Et à la fois ça nous a aussi permis d'avoir un premier réseau de personnes à contacter pour parler de cette levée de fonds et pour avoir une communauté qui nous suit.
Et ça vous a permis de faire quoi en fait, la levée de fonds?
La levée de fonds, ça nous a permis de développer d'abord DreamAct, la marketplace, d'aller chercher des nouvelles marques, de mettre en place une communication plus forte, d'avoir des salariés qui peuvent faire changer d'échelle cette partie-là, parce qu'avant c'était tout petit quoi. Et on a fait une deuxième levée de fonds cette année qui nous permet aussi de donner plus d'ampleur à la partie pro de DreamAct.
Voilà. Sur laquelle vous communiquez moins?
Sur laquelle on communique moins, mais on est en train de lancer un nouveau site internet de DreamAct Pro, donc on communiquera aussi plus là-dessus. Mais en fait, les deux activités sont hyper complémentaires parce qu'elles ont la même mission. C'est juste qu'elles ne s'adressent pas aux mêmes personnes. Et donc, c'est vrai qu'on ne va pas forcément communiquer sur les objets publicitaires durables auprès des particuliers parce que ça ne les intéresse pas trop. Mais par contre, tous les articles d'information qu'on écrit pour les particuliers intéressent bien les pros.
J'imagine. Et la partie pro, c'est quelque chose qui s'est fait en fait au fil du temps. C'est pas forcément quelque chose que tu avais imaginé dès le départ.
Non, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé dès le départ et qui est venu en fait juste en écoutant nos clients et les contacts qu'on rencontrait autour de nous. Et c'est souvent des personnes qui travaillent dans des entreprises, au pôle, par exemple, communication, qui nous disaient « c'est dommage que je ne puisse pas acheter ça pour ma boîte. Moi aussi, j'aimerais bien qu'on fasse mieux dans mon travail. » Et c'est comme ça que l'idée est venue et puis qu'on l'a structurée. On a aussi pu embaucher Cécile qui nous a rejoint dans les associés un peu plus tard et qui, elle, avait déjà 15 ans d'expérience dans l'objet publicitaire traditionnel, qui avait envie de donner un coup de pied dans la fourmilière et de donner un peu plus de sens à ce domaine-là. Donc, on a eu la chance d'être bien accompagnés là-dessus. Et puis, toutes les étoiles étaient alignées pour faire les deux en même temps, quoi.
Et l'avenir de DreamAct, ça pourrait être quoi? Vous imaginez une boutique physique? Vous imaginez de vous développer à l'étranger? Qu'est-ce qui vous fait rêver?
Je pense que avant de vouloir aller à l'étranger ou changer de mode de distribution, il faut d'abord qu'on devienne un peu la référence de la consommation responsable dans les têtes des gens. Aujourd'hui, on est les plus gros sur ce domaine, mais on est encore petit. Et c'est quand même 9 Français sur 10 qui disent qu'ils veulent mieux consommer et que l'engagement, l'engagement durable d'une marque est important pour eux. On n'a pas encore 9 Français sur 10 qui achètent chez nous. Et en fait, il faut d'abord se faire connaître, sensibiliser. Et ensuite, on se posera la question de faire un réseau de boutiques, d'aller à l'international. Mais je pense que même en ligne, on a encore plein de choses à faire.
Donc, tu n'as pas de rêve pour l'instant?
Bah si, mon rêve, c'est qu'on, c'est qu'on se fasse plus connaître et qu'on, enfin, voilà, qu'on change les modes de consommation, quoi. Après, le reste, c'est des moyens. Et si on doit faire un réseau de boutiques physiques, on le fera. Pour le moment, on a mis en place un système de boutiques éphémères où un jour par mois, on lance une boutique au cœur de Paris sur un thème de consommation. Par exemple, en septembre, c'est le zéro déchet. En octobre, c'est la mode éthique pour faire découvrir vraiment en physique les alternatives de nos marques engagées. Donc, on est bien conscient que la distribution physique, c'est quelque chose qui est important parce que ça donne aussi confiance de voir les produits et puis de voir les gens qui sont derrière leurs écrans. Mais voilà, c'est pas le rêve, c'est pas d'ouvrir des boutiques. Le rêve, c'est de faire grandir ce domaine de la consommation responsable.
Faire bouger et évoluer les consciences.
Exactement.
Et ces boutiques... éphémères, elles seront situées toujours au même endroit ou vous allez bouger de quartier en quartier? Comment ça va se dissiper?
Elles seront toujours au même endroit, à côté de Bastille.
Et donc ce sera jusqu'à fin de l'année?
Ce sera jusqu'en décembre et puis après on verra si on continue ou pas. Mais en décembre, on aura une boutique pendant une période un peu plus longue, mais septembre, octobre, novembre, ce sera des boutiques thématiques une fois par mois.
Et donc pour mener à bien ce projet, j'imagine que vous avez contacté vos marques,
oui,
en leur proposant de participer. C'est aussi une façon pour vous de mettre en avant des petites marques, parce que j'imagine que dans vos créateurs, il y en a qui n'ont pas du tout les moyens pour l'instant de se payer une boutique ou même de participer à des pop-up stores, etc. Donc, comment ça a été reçu?
Bah, ça a été bien reçu. Ils étaient contents. Mais par contre, c'est vrai qu'on n'attend pas le fait d'avoir une boutique physique pour mettre en avant les marques. En fait, sur chacune des fiches produits de notre site, on explique à la fois les infos techniques du produit, mais aussi les infos sur le processus de production, sur les impacts, et puis sur les engagements de la marque. Et ça nous semble essentiel, parce que quand on veut mieux consommer, il faut avant tout apporter de la transparence et de l'information sur les produits, mais aussi sur les gens qui sont derrière, et donc c'est les créateurs de ces marques-là, quoi.
Ouais, je pense que tu as raison, et c'est vrai que sur votre site, c'est très clair. Et c'est facile d'avoir accès à ce genre d'informations. Il y a quand même une transparence qu'on retrouve sur toutes les pages du site internet.
Bah, merci.
Est-ce que tu penses que tu souffres d'éco-anxiété? Est-ce que l'avenir t'angoisse?
Pas trop, non. J'ai eu cette conversation avec mon petit cousin qui vient d'avoir son bac et qui, lui, souffre clairement d'éco-anxiété. Et en fait, c'est exactement pour ça que moi, j'en souffre pas. C'est parce que je pense que la génération d'après est beaucoup plus conscientisée et beaucoup plus engagée. Et que c'est grâce à ces gens-là qui arriveront bientôt sur le marché du travail qu'on va pouvoir faire changer les choses et pas du tout aller vers la catastrophe. En tout cas, je pense que ça sert à rien d'être anxieux et de rien faire, quoi. Si on est anxieux, on agit et puis on essaye de faire en sorte que tout aille mieux. Et voilà.
Et le meilleur moyen d'agir, on est d'accord, c'est de dépenser son argent intelligemment.
Bah, y a
allant
plein
vers
de...
des marques
Oui, il y a plein de moyens d'agir, mais c'est vrai que je pense que la façon la plus simple d'agir dans son quotidien, quand ce n'est pas forcément par son travail ou par d'autres choses, c'est par sa consommation. C'est des En fait, c'est comme des petits votes qu'on fait tous les jours pour dire soit... j'ai d'autres priorités que la consommation de responsable et du coup tout ce qui en découle sur la planète et compagnie, soit c'est quelque chose qui est important pour moi et les entreprises doivent réagir.
Je pense que que c'est un des meilleurs moyens, c'est de dire qu'avec tes euros tu peux changer les choses. C'est pas toujours évident.
Oui, nous on essaye de le rendre plus évident, mais bien sûr il y a toujours des choses à améliorer.
Sur DreamHack, vous n'avez pas du tout de partie alimentaire?
Non.
C'est un choix ou c'est quelque chose vers lequel vous aimeriez aller?
On a une petite partie épicerie fine pour tout ce qui est thé ou café. Par exemple, on a des capsules de café en plastique de maïs biodégradable. des choses comme ça, mais tout ce qui est alimentation vraiment fraîche, on trouve qu'il y a un réseau d'AMAP qui est très bien et on n'a pas besoin de nous là-dessus, donc on s'y met pas.
C'était pas votre souhait.
Ben, on s'est dit que c'était pas tellement là qu'on avait besoin de nous, et il y a tellement de choses à faire dans les autres domaines, enfin, on a déjà la mode, la cosmétique, les choses pour les enfants, etc., qu'on s'est dit, bon, ça, ça marche bien, on va laisser les choses qui marchent bien marcher.
Aujourd'hui, le profil consommateur chez DreamAct, c'est qui ? Qui est-ce qui commande chez vous ? Plutôt des personnes urbaines
Bah, quand on a commencé, tout le monde nous disait « Ah ouais, c'est un site pour les bobos parisiens ». En fait, pas du tout. On se rend compte que les gens qui achètent chez nous vivent vraiment partout en France. Alors aussi bien à Paris et en région parisienne que dans des petites villes dont on n'avait jamais entendu parler avant. Après, c'est quand même surtout des femmes qui achètent chez nous. C'est peut-être parce que notre offre pour les hommes était jusqu'à présent pas assez développée, mais elle grandit bien. Et alors, on a une grosse partie de lecteurs qui ont entre 15 et 20, 25 ans. Et par contre, pour les achats, c'est plutôt les 25, 35, 55 ans, quoi. C'est effectivement pas pour une raison de pouvoir d'achat, parce que bah, quand on est étudiant, on achète juste moins. et puis, on va peut-être privilégier plutôt la seconde main et pas tout de suite les marques engagées. Ou alors, on se les fait offrir en cadeau. Et finalement, bah, ceux qui achètent, c'est les plus âgés, quoi.
Mais il y a quand même un intérêt certain des jeunes générations.
Complètement.
Chez DreamAct, vous mettez vraiment en avant la notion d'éthique. Le mot figure sur votre site partout, partout, partout. Est-ce que tu peux définir pour toi ce que c'est la notion d'éthique, sachant que c'est un terme aux définitions assez malléables ? Donc, j'aimerais bien connaître la tienne.
Oui, bah, je crois que je t'avais dit un peu au tout début du podcast. Pour moi, l'éthique, c'est d'abord de se poser la question de qu'est-ce qui est bien ou pas bien et de nos valeurs. Et ensuite, de se dire, bah, on va mettre en place des actions qui sont en accord avec nos valeurs. Donc, effectivement, comme ça part d'un jugement, c'est chaque citoyen qui, une fois que nous, on a fait le premier choix de ce qui nous semble éthique, qui est des créateurs engagés, qui sont transparents sur leur processus de production et qui essayent de faire les choses de façon juste. On pense que c'est aussi aux citoyens de réfléchir à, bah, parmi toute cette gamme, qu'est-ce qui est vraiment éthique pour moi. Et c'est pour ça qu'on a à la fois des produits vegan et des produits qui ne le sont pas, des produits qui sont commerce équitable, mais du coup qui viennent de plus loin, et du made in France qui utilisent des matières certifiées, mais qui ne sont pas non plus allés forcément dans les ateliers pour voir comment ça se passe. On pense que c'est important de donner un maximum de transparence et d'informations aux citoyens pour qu'eux puissent faire jouer leur éthique dans leur processus d'achat et dans leur choix du quotidien.
Et au niveau de la problématique des marques, par exemple, j'achète quelque chose issu du commerce équitable mais qui vient du Pérou, qui vient de Colombie, versus un produit local. Comment on se positionne ? Quel est le juste milieu ? Comment vous faites sur DreamAct ?
Nous, on a pris le parti pris d'accepter à la fois les marques qui font du commerce équitable avec le Pérou, qui en effet ont un impact carbone élevé, mais qui font de la compensation carbone, qui vont mettre en place des programmes de scolarisation là-bas, et des marques beaucoup plus locales et artisanales ou non, mais on ne donne pas de jugement de valeur là-dessus, tout simplement parce qu'on ne peut pas tout faire en France. Il y a certaines matières et certains produits juste qu'on ne fait plus. Alors, on peut décider de n'acheter que français, et c'est possible sur DreamAct, mais on peut aussi se dire qu'on ne veut pas acheter que français, qu'on a envie de soutenir des causes ou le développement économique de certains pays. Et moi, je ne me sens pas légitime pour dire que ce n'est pas une cause juste. Donc, on laisse les gens le choisir eux-mêmes. Et après, pour ce qui est du choix des marques, c'est vrai qu'elles ont parfois affaire à des choix difficiles. On avait par exemple une marque qui faisait toute sa fabrication en France. Et puis, il y a un jour qui nous a dit, je suis un peu embêtée. Moi, j'ai signé mon contrat éthique en disant que tout était fait en France. Mais là, je pense que je vais devoir délocaliser une partie de ma production au Portugal parce que ça me coûte trop cher. Et soit je rentre pas dans mes frais, soit je vends rien parce que les prix sont trop élevés. Les gens sont pas prêts à mettre ces prix-là. Donc, je vais faire moins bien. Est-ce que vous m'acceptez toujours ? Oui, on l'accepte toujours. C'est juste qu'on va, l'expliquer. Et je pense que c'est important aussi d'expliquer ça aux citoyens et qu'ils se rendent compte des enjeux des marques.
Oui, c'est sûr que c'est un petit peu trop restreint si tu te contentes à la France, sachant qu'il y a un super savoir-faire dans d'autres pays, que comme tu le disais, il y a des matières qu'on ne peut pas de toute façon cultiver ici. Il faut juste consommer en accord avec ses valeurs.
C'est ça. Et nous, on fait un premier filtre. Normalement, on ne trouvera pas de choses qui est ni éthique, ni durable, ni quoi que ce soit sur Dream Act, ou alors ce sera vraiment un hack. Dans ce cas, prévenez-nous.
C'est qu'il y a eu un piratage. Exactement. Et là, il faut intervenir rapidement. Oui. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Avant de terminer cet épisode, qui, je l'espère, aide les citoyens et les consommateurs à voir un peu plus clair, voilà, parce que c'est pas évident hein, quand on se plonge dans toute cette vague de consommation responsable, quand on n'y connaît rien, c'est pas facile. On peut aussi être victime de greenwashing. Ça, c'est une autre problématique, mais c'est vrai que pour les consommateurs, on peut penser acheter un produit responsable et au final se rendre compte qu'on a juste été une victime du marketing. Est-ce que tu as des conseils pour déjouer les rois du marketing qui essayent de nous faire croire qu'un produit est plus green qu'il ne l'est en vrai.
C'est tout simple, mais lire les étiquettes et s'informer un maximum. Comprendre les ingrédients dans nos produits cosmétiques, comprendre quelles sont les matières qui ont un impact négatif ou celles qui, à l'inverse, sont bonnes pour l'environnement. S'informer un maximum. Et puis, je pense que privilégier les petites marques qui se créent pour faire mieux, c'est quand même s'assurer d'éviter une grande partie du greenwashing. Et puis, c'est envoyer un message fort pour dire que on veut que ce soit cette économie-là qui se développe. Et nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur.
Qu'est-ce que tu penses des applications qui permettent de scanner la composition d'un produit et qui mettent une note à ce produit?
Tu penses que
ça peut aider?
Ouais, je pense que ça peut aider. Je pense que ça aide beaucoup à prendre conscience de ce qui ne va pas. Et moi, quand Yuka s'était créée, j'avais plein d'amis qui venaient me voir en disant « mais je ne me rendais pas compte que mes produits dans ma salle de bain, c'était une catastrophe et les trucs que j'achète ». Et c'est bien, en fait, ça aide à prendre conscience. Après, il faut juste se poser des questions et puis aller plus loin. Mais je trouve que ça aide à ça.
Super. Alors, quelques petites questions un peu plus tac au tac pour finir. Ah. la France, tu l'imagines comment dans 20 ans ? Responsable, écolo ?
Heureuse, pleine de contradictions, mais plus écolo et responsable que maintenant.
Ouais, tu penses que la nouvelle génération saura s'investir ?
Ouais, qu'elle a une prise de conscience plus forte que la génération d'avant.
Espérons. Ouais. Un geste écolo que tu dois encore adopter, donc tu le disais, la lunchbox.
Ouais, la lunchbox, il faut vraiment que je l'adopte.
Il faut que tu t'y mettes.
Il faut que je m'y mette.
En même temps, t'es pas obligée de te cuisiner des plats, hein. Tu peux aller prendre un sandwich et apporter ta petite poche ou...
Ouais, c'est vrai.
les gens pessimistes, qu'est-ce que tu leur dis en général?
Que s'ils ne sont pas contents de comment les choses sont faites, ils n'ont qu'à les faire mieux. Et on a tous besoin que les choses se fassent mieux.
Parfait. On finira sur cette note positive. Merci beaucoup Claire. Comme d'habitude, j'indiquerai dans la description de l'épisode le site de Dream Act, le blog qui, comme je l'ai dit en début d'épisode, regorge d'informations. Évidemment, toute la team est également très dispo pour répondre aux questions des consommateurs. Vous faites vraiment un travail d'information et d'éducation. Donc, il ne faut pas hésiter à vous envoyer les questions. Et puis voilà.
Oui, puis voilà.
Et merci beaucoup. À bientôt.
Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, vous pourrez retrouver dans la description de l'épisode tous les liens utiles si vous souhaitez en savoir plus sur DreamAct. N'hésitez pas à partager l'épisode avec vos proches, vos collègues ou tout simplement sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt !